Madame,
C'est à quel sujet?
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Porte numéro 47. Et dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte. Regardez-moi la tête que ça a. On dirait une triphilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez?
Bah, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Les Halles ou le palimpseste infernal.
Olivier Delamarre, nous sommes au moins un du Forum des Halles. Un peu dans les souterrains. De toute façon, c'est le destin de ce lieu d'être enterré. Vous êtes le directeur du Forum des Halles. C'est pas très facile quand on se penche sur le dossier de comprendre ce qui vous appartient et ce qui appartient à la ville. Parce que donc on comprend qu'au moins 5, moins 4, c'est la RATP, donc espace public. Niveau 0, on imagine que c'est le niveau espace public. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qui est propriétaire? Quel est le statut de ce lieu-là?
Donc la canopée a été construite par la ville de Paris. Au premier et au deuxième étage de la canopée, vous avez des bâtiments publics. Comme une médiathèque, le conservatoire des 4 premiers arrondissements ou le premier centre mondial de hip-hop qui est la place. Unibail-Rodamco a racheté à la ville de Paris le niveau 0 de la canopée pour y implanter des commerces. Au niveau 0, on a vraiment voulu des commerces qu'on ne trouve pas ailleurs dans les centres commerciaux. On est au cœur de Paris, dans un lieu exceptionnel. Il y a par exemple le restaurant Champeau qui est devant nous, qui est le premier restaurant de France dans un centre commercial, qui est à la fois cité au guide Michelin, mais aussi au guide du fooding, qui est beaucoup plus parisien. On a un restaurant de Philippe Amzalak, qui a été designé par Stark, qui est le ZA juste en dessous. On a le concept store de Nike, on a le concept store de Sephora, et on a bien évidemment le flagship de Lego, qui est leur premier magasin parisien.
Et alors, tout ce qui est en gris, là, ce que je vois, c'est-à-dire les espaces où on circule, ça, c'est vous ou c'est la ville
alors,
de Paris?
Les moins 1, moins 2, moins 3, les commerces appartiennent à la SCFHP, qui est une société du groupe Unibail-Rodamco. Et tous les espaces communs sont de l'espace public de la ville de Paris, pour lequel on a un lien fort avec la ville de Paris, parce que ma société a signé avec la ville de Paris, il y a quasiment 40 ans maintenant, un contrat d'affermage. Mm-hmm. Donc en fait, je suis fermier de ces espaces. C'est l'espace public qui est géré par mes équipes et moi.
Une montagne de fer, des poutres très serrées qui dessinent de grandes courbes et arrondissent les angles. Voilà ce qu'on voit d'abord sous la canopée. Cet ultime et coûteux projet de la ville de Paris pour donner du lustre au centre de la capitale, qui était, c'est vrai, pour le moins crasseux jusqu'à présent. Une couleur qui tire vers le beurre et la stupéfaction. Tout ça pour ça? Deux concours, une polémique qui avait enflé et divisé Paris, puis un projet de toiture retenu pour ne fâcher personne, qui avait muté vers un projet de feuilles et de canopées. Finalement, il y a ces deux bâtiments, deux gros yeux aux paupières lourdes, et les reliant au-dessus de ce qui est toujours un trou, ce grand couvercle, à la fois emphatique et fatigué. On sent bien que tout se passe toujours sous terre. Tout nous invite d'ailleurs vers le monde souterrain des Halles, ces escalators flambant neufs et ces grands gradins qui descendent par paliers vers le fond de ce qu'on appelle désormais le patio. Mais que s'est-il encore passé aux Halles, se demande-t-on, avec aujourd'hui la critique d'architecture Françoise Fromoneau.
En 2004, quand le maire de Paris, à l'époque c'était Bertrand Delanoë, adjuge le réaménagement de ce site, en effet, très abîmé, très complexe, et dont d'ailleurs la raison du réaménagement tient plutôt au problème des sous-sols et de la gare. Donc il adjuge le réaménagement à un projet qui propose un nouveau jardin, dans son prolongement une grande toiture qui viendrait couvrir la fosse de ce forum et qui propose, d'où le nom qui va venir ensuite de canopée, que cette toiture, cette grande toiture carrée, hein, qui devait faire la largeur du site au carré, soit plus de 200 mètres, donc une énorme toiture de plusieurs hectares, eh bien sa hauteur soit 9 mètres, soit la hauteur du sommet des arbres du jardin de l'époque qui devait être conservé. D'où cette idée, comme ça, un peu théorique, hein, il faut bien le dire, d'une continuité entre l'épaisseur végétale de ces arbres qui avaient péniblement atteint 9 mètres en 30 ans, puisqu'ils sont plantés sur une dalle, et puis cette toiture, comme un peu en lévitation, au-dessus de cet univers souterrain qui aurait été entièrement repensé et dont les perspectives données par les architectes, la SERA, faisaient ressembler tout ça à un centre commercial moderne, un peu du genre aéroport, si vous voulez.
Qu'est-ce que vous pensez de cette grande toiture au-dessus de notre tête, la canopée ?
Je sais pas, c'est bizarre.
Ouais,
je trouve que ça peut être assez moderne aussi, mais...
Ouais, ça, je sais pas trop à quoi ça sert.
Ouais, ça cache le... On est un peu à l'abri du soleil, je suppose, mais après...
Après, la pluie, ça passe dedans, je sais pas.
Non, ça passe pas.
Il y a un truc en vert, je crois.
Moi, je suis pas sûre.
Je sais pas si ça passe.
Vous êtes jamais venu quand il pleut ?
Non.
Non. Non, mais on va pas trop à Paris quand il pleut.
Ouais.
Il y a vraiment un atavisme de l'architecture métallique sur ce site, c'est-à-dire que la destruction terrible en 1971 du marché de gros de la capitale qui était logé dans ces pavillons, qu'on a peut-être beaucoup idéalisé, mais qui en tout cas en termes architecturaux était assez merveilleux, des grandes structures métalliques et verrières qui laissaient passer la lumière et qui pouvaient accueillir beaucoup d'usages, eh bien on a cessé de vouloir peut-être réparer ou racheter cette disparition par des architectures métalliques qui se sont succédées, et il y a fort à parier que la canopée n'est pas la dernière.
C'est vrai que, en fait, ce qui est très particulier sur ce site, c'est qu'il y a une forme de malédiction, c'est-à-dire qu'il y a eu ce grand marché, ces grandes halles, ces grands pavillons baltards qui ont abrité le ventre de Paris, et puis cette destruction dont on n'arrive pas à se remettre. Et on refait comme une sorte de palimpseste, on détruit, on refait. Et il faut bien le dire, dans la presse, même internationale, quand l'année dernière la canopée est livrée, on est stupéfait parce qu'il y a beaucoup de fer, que ça ne ressemble pas du tout à une feuille, mais plutôt à un scarabée ou à une espèce de tortue. On nous dit que ça va être étanche. Et le dernier orage ici à Paris a montré que non, décidément, ça n'est pas étanche, qu'il va y avoir un nouveau chantier pour le rendre étanche d'un million d'euros. Enfin, on a l'impression que c'est une sorte de fiasco permanent, cet endroit.
Alors, moi, je ne crois pas tellement à la malédiction. Je pense que voilà, les choses ont été faites pour des raisons. Il y a eu des décisions politiques, il y a des enjeux économiques énormes qui expliquent et qu'il faut toujours essayer de comprendre. Voilà, la pression foncière, commerciale sur ce site, la pression politique, la question des infrastructures, voilà, tout ça, ce sont des questions qui se nouent à cet endroit d'une manière particulière et qui, depuis un demi-siècle, et même bien avant, puisque même du temps du marché de surface, il a fait régulièrement l'objet de questionnements sur est-ce qu'il fallait le laisser au centre de Paris, est-ce qu'il fallait pas le déplacer. Donc c'est un lieu, c'est 1000 ans d'histoire au fond, les Halles, dans un lieu extrêmement sensible, hein, celui des subsistances pendant longtemps, celui du commerce, celui de la distribution, de l'approvisionnement de la ville, et puis maintenant celui d'un site commercial et infrastructurel majeur. On est un peu ligoté aux Halles, il faut bien le dire. Et c'est vrai que l'évolution du projet de ce toit en est peut-être un symptôme supplémentaire. Rappelez-vous, c'est vraiment un projet de 2006-2007. On est juste avant la crise économique. On est en plein dans cette expansion de la mondialisation et de son impact sur les villes, hein, sur leur volonté de se doter d'emblèmes spectaculaires qui passent par une architecture souvent avec des formes un petit peu jamais vues, hein, une sorte de compétition pour une forme d'innovation visuelle. Enfin voilà, toute cette esthétique et la compétition des villes pour leur image et donc pour leur compétitivité économique bat son plein. Et ce qui est d'ailleurs stupéfiant, c'est que Paris et on continue d'entendre ce discours à la ville, se mettent sur les rangs de cette compétition comme si ce n'était pas Paris. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans la situation d'une ville industrielle et portuaire en déshérence qui a besoin d'un emblème architectural pour redémarrer, c'était le cas de Bilbao. On n'est pas non plus dans le cas d'une ville américaine de troisième zone qui a besoin d'un musée de Zaha Hadid pour exister sur la carte des États-Unis, c'était par exemple le cas de Cincinnati. On n'est pas non plus dans le cas d'une ville chinoise qui n'existait pas il y a 30 ans, qui a maintenant 15 millions d'habitants et qui a besoin d'un opéra le plus visible possible. Non, on est à Paris. Donc voilà, il faut se resituer dans cette forme de paradoxe absurde qui fait que les Halles vont devenir, à l'occasion de cette toiture, le lieu d'exercice de cette volonté d'icône. Voilà, il y a tout un climat qui concourt à ce que ce projet d'une toiture au départ carrée, un principe très simple, à 9 mètres de haut, à hauteur des arbres, prenne de l'ampleur, puisque ça sera, c'est ce qu'on pense à l'époque, et, ça, et c'est vrai que c'est avéré, l'emblème de cette rénovation d'un site sensible au cœur de Paris.
On est là à l'entrée du forum du centre commercial. Vous faites quoi? Vous êtes, comme beaucoup de gens d'ailleurs, assis sur les gradins.
J'attends une amie à moi.
Pourquoi vous êtes donné rendez-vous ici?
Moi je suis pas d'ici, et elle m'a dit de venir ici, mais c'est beau ici.
Vous êtes d'où?
J'habite à Mouk, dans le 77.
C'est la première fois que vous venez?
Ouais, c'est la première fois.
Ouais.
C'est beau quoi. C'est grand, il y a du monde. Ouais, c'est bien. Voilà.
C'est loin, Meaux, non?
Ouais, c'est un peu loin. Mmh. Mais bon, ça valait le coup. Hein. Design, déjà, c'est bien fait. Mmh. L'architecture, ça a bien été fait. Franchement.
Vous êtes arrivé par tout en bas?
Ouais.
Ouais.
Ah, voilà.
Comment vous avez réussi à vous retrouver dehors?
Je sais pas, j'étais en bas et j'ai vu y avait des estrades là, mais je suis monté. Voilà.
Belle recherche.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'on voit là? Nous, on est vraiment au centre, on est sous la canopée, on a quelque chose d'un peu cinémascope, hein?
Absolument.
Avec des toitures parisiennes, des immeubles haussmanniens, la bourse du commerce en face de nous, et à droite, un beau morceau, de l'église Saint-Eustache. Donc ça a quand même dégagé un très joli panorama.
Ah oui, il est certain que il y a une amélioration, disons, de la visibilité panoramique du site et de ses monuments, une beaucoup plus grande lisibilité et une amélioration certaine des conditions d'accès au monde des sous-sols, puisqu'au Halles, le monde de surface est une partie très inférieure au monde des sous-sols. Il y a sous nos pieds trois niveaux de centre commercial, deux niveaux de gare, d'interconnexion, qui est une des plus grandes gares d'Europe souterraines, qui accueille dans des sous-sols aveugles des voyageurs à hauteur de 800 000 par jour. Hein, donc on est, il est certain qu'il y a eu une amélioration de la relation entre le dessus et le dessous, qui a, il faut bien le dire, largement profité aux gestionnaires, au centre commercial et à son immobilier, qui sont les grands vainqueurs de tous ces réaménagements, même si, là encore, la gare, et on va le voir après, a été largement améliorée.
Sous la canopée, on longe des boutiques de standing sur un sol un peu pauvre qui aurait soudain manqué de moyens en fin de chantier. Et puis, il y a donc toujours ce trou qu'on a élargi, mais qu'il faut maintenant contourner par deux allées un peu rétrécies pour rejoindre l'autre côté. Alors bien sûr, cela répond à cette demande expressément formulée d'améliorer les possibilités de sortir du dessous, vers le jardin et vers Paris. Mais à y regarder de plus près, on doute. Et si tout ce système contribuait moins à faire sortir les gens qu'à les aspirer vers les sous-sols et vers le centre commercial?
Quand on est là, on a plutôt l'impression que cet élargissement du patio, que cette ouverture et ces gradins vers le jardin, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils mettent en scène et en majesté la façade, les trois niveaux de façade du centre commercial, hein, c'est assez facile de voir ce qui appartient à l'Empire Unibail et ce qui relève de la construction de la canopée. La canopée, elle a cette couleur un peu jaune. Et puis tout ce qui est aluminium, hein, argenté, finalement c'est argenté, comme le site, ça relève de maintenant la propriété et la gestion et l'exploitation de l'immobilier commercial qui occupe depuis la fin des années 70 cet ancien ventre de Paris. Et puis au fond, cette toiture, elle est inutile si on pense en termes purement fonctionnels. Elle est somptuaire au fond. Et on pourrait presque avoir l'impression que pour compenser cette forme d'inutilité, eh bien elle doit être d'autant plus présente, elle doit être d'autant plus être un monument à elle-même. C'est peut-être ce qui explique cet étrange sentiment qu'on a à regarder l'extraordinaire emphase au fond de ce geste et le peu d'effet qu'il a en dehors de lui-même. Mais je crois qu'il faut sans doute en blâmer le projet d'aménagement, c'est-à-dire que l'idée de fabriquer cette immense toiture est absurde, au fond. Et les gens qui viennent s'asseoir en masse sur ces escaliers pour attendre, pour fumer, pour regarder leurs emails ou leurs SMS, eh bien, ils ont en géométral voilà, cette vue sur ces publicités. Vous voyez, on les voit, la Fnac, H&M, Forum des Halles.
C'est le nerf de la guerre ici. On est dans le centre commercial, c'est le navire amiral. C'est ici que ça se passe en fait, Réal.
C'est ici que ça se passe. Alors on est dans un centre commercial de trois niveaux qui est achalandé par le dessus, donc par le sol de la ville. On y descend, mais surtout par la gare en dessous. On y monte pour accéder éventuellement à Paris, mais on sait que la plupart des voyageurs soit restent dans la gare et prennent un autre train. Une partie un peu plus faible monte dans le centre commercial et une partie encore plus faible accède jusqu'à Paris et donc pour ce faire doit traverser le centre commercial. La percolation des voyageurs à travers le centre commercial étant d'ailleurs une condition qui, je crois, figurait dans le bail d'Unibail, le bien nommé, qui est, je crois, en Europe et même dans le monde, la seule société de gestion immobilière commerciale cotée au CAC 40. Donc ça vous donne une idée voilà,
du mastodonte,
exactement. Voilà, l'idée que le centre commercial tirait une partie de ses revenus des achats impulsifs qu'on, chacun de nous est amené à faire quand, au lieu d'emprunter un escalator direct quelque part, vers quelque part, il ou elle, à la faveur d'un palier, bifurque en voyant une enseigne et a acheté quelque chose, même minime, et quelque chose qui a été très pris en compte dans la rénovation, puisque aujourd'hui, à part la nouvelle sortie qui a été créée à l'autre bout, là où il n'y a pratiquement pas de surface commerciale, et qui sort directement de la gare vers l'extérieur, toutes les autres, hein, le Tublesco a été supprimé au profit de trois escalators avec des paliers. Donc Unibail a gagné sur toute la ligne pour ce qui est l'absence, en tout cas de la diffusion des voyageurs et des visiteurs grâce aux sorties et aux entrées verticales.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
On s'est dit qu'on allait se poser ici parce que c'était sympa.
Ouais.
Encore, on a pris un truc à boire et puis on discutait tout.
Vous venez d'où ?
Marne-la-Vallée, enfin Disney. Ouais, je marche ici.
Disney ?
Oui, juste à côté.
Vous avez un énorme centre commercial
Ouais, Val d'Europe, oui.
Ouais. Pourquoi vous venez ici alors ?
Pour changer, parce que en fait, on va souvent au Val et au bout d'un moment, ça nous saoule, c'est tout le temps la même chose. Du coup, ici, ça change, c'est plus sympa.
Est-ce que ça vous a paru simple, quand on est tout en bas dans le RER, de regagner l'extérieur ?
Les sorties, ouais, c'est galère. Hein. Il y a plein de sorties. Et après, c'est pas facile de se retrouver une fois qu'on sort du
Avec les magasins et ouais. Tout. Enfin, c'est chaud.
C'est vraiment grand. donc surtout la gare. Ouais.
Vous avez quel âge ?
15 ans. 15 ans, ouais.
Est-ce que c'est un peu l'aventure de venir quand même ici ou pas ?
Bah, avant, on va dire, il y a un an, c'était l'aventure, ouais. Mais maintenant, on est un peu habitué, on va dire.
Le monde du centre commercial a muté d'une conception dans laquelle on passait, on faisait ses achats et on sortait, vers une conception presque de villégiature urbaine. D'où l'attention portée aux surfaces, au sol, en marbre poli, à la blancheur, à l'éclairage, les efforts qui ont été faits ici pour, autant qu'on peut, hausser une hauteur de sous-plafond qui était faible en essayant de gagner un petit peu sur les gaines pour avoir des vitrines les plus avenantes et les plus grandes possibles. Et puis tous ces lieux de repos, vous voyez, qui sont extrêmement bien dessinés, avec soin, en bois massif, avec des formes douces, tous pourvus de prises USB et électriques. Voilà, l'espace public, au sens réellement public, c'est-à-dire financé par le public et où tout le monde peut accéder sans véritable contrainte ou surveillance, s'est replié dans ces lieux qui de plus en plus ont capté le rôle traditionnel de cet espace public avec beaucoup d'argent et évidemment beaucoup d'intérêts en jeu.
Ce grand projet de rénovation, il avait pour objet au départ un problème vraiment qu'avait soulevé la RATP après les attentats de 2001, qui était comment sortir les gens très très rapidement en cas d'attentat. Hein. C'était l'enjeu, c'était comment on fait sortir les gens. Enfin, c'est l'origine du projet de rénovation et c'est pour ça que tout a été lancé. Moi, je me souviens d'un tube ici où on descendait au moins 3 directement pour aller très vite au métro. Ce tube n'existe plus. Pourquoi ?
Donc en fait, pour donner un parcours client plus agréable, on en parlait tout à l'heure, ce tube pouvait être considéré par certains comme anxiogène. On a fait des liaisons mécaniques plus courtes, c'est-à-dire qu'il y a des escalators qui descendent du niveau 0 au niveau moins 1, puis du niveau moins 1 au niveau moins 2, puis du niveau moins 2 au niveau moins 3, et du moins 3 au moins 4, ce qui permet, sans perdre de temps, d'avoir un parcours agréable pour aller prendre les transports en commun.
Parce qu'il y a beaucoup de magasins, il y a plusieurs choix. C'est bien, c'est beau. Et en plus, on est à Paris un peu, donc c'est joli. C'est pas comme où on habite, quoi. Avant, ici, c'était un peu genre...
Il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait.
Ouais, il n'y avait pas autant de monde que maintenant. Et c'était pas aussi moderne. Genre, quand on regarde les bâtiments autour et qu'on voit ça, ça tape à l'œil directement. Donc peut-être c'est pour ça que les
gens, quand on veut voir de loin,
qui viennent.
Quand on veut le voir de loin, on voit et on l'admire, c'est un or et tout. Quand tu redors, on va directement.
Le projet de réaménagement des Halles, c'est en réalité d'en bas qu'il faut le regarder. Il faut descendre dans les entrailles au moins 4, au moins 5, là où tout le monde arrive par transit, la vraie porte d'entrée des Halles. Et il faut bien dire que ça a changé. Des petits pavés en basalte noir, des carreaux qui scintillent sur les murs et une grande salle des échanges largement rénovée. Et puis, tout au bout d'une grande galerie, enfin, cette sortie directe tant réclamée par la RATP.
Oui, c'est une des améliorations indéniables de la sécurité et de l'espace de la gare que cette nouvelle sortie. Alors, du moins 4 au 0, avec quand même un petit palier au moins 3 pour créer encore un accès au forum commercial, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que c'est le seul endroit où... non seulement on voit un peu le soleil, la lumière du jour qui sont filtrées par le petit abri en bois qui couvre la trémie, mais où on a ce sentiment géologique beaucoup plus qu'au centre, sous la canopée, dans le patio, cette idée que, en fait, on est dans les entrailles de la Terre, on est dans les entrailles de Paris. Il y a un sentiment presque spéléologique qui naît à circuler sur ces escalators au mouvement lent et qui vous amène... à la ville.
Pour votre sécurité et celle des autres voyageurs, nous vous rappelons qu'il est interdit de circuler en roller, en trottinette ou en skateboard, dans tous les espaces de la gare. Merci.
Et pour la première fois, peut-être depuis qu'on est ensemble dans ce sous-sol, On a un sentiment de, oui, de dignité, des espaces de circulation, le sentiment que peut-être on pourrait avoir envie d'aller voir ce qui se passe à la surface, ce qui n'est pas toujours le cas pour le public, notamment de banlieue, qui a fait la fortune du centre commercial et qui tend à y être captif, qui se sent peut-être exclu. Il y avait un article dans Le Monde récemment sur cette question, hein, quand on vient de certains quartiers de banlieue le samedi soir, on ne se sent pas chez soi à Paris, qui est devenue une ville de plus en plus gentrifiée, de plus en plus riche, de plus en plus exclusive. Et ça se sent dans son espace de surface, dans ses bâtiments, dans sa décoration, dans sa fréquentation. Et la grande lutte des projets en 2004, qui voulait essayer de penser le projet du dessous vers le dessus pour essayer de rendre plus métropolitain, d'irriguer par la métropole ce vieux Paris un peu figé, n'ont pas réellement réussi à imposer leur vue. Et c'est vrai que cette sortie Marguerite de Navarre, encore une fois captée d'un de ces projets-là, est le lieu dans lequel on sent un peu cette volonté d'échange entre Paris et la banlieue. Alors, il est dommage qu'elle aboutisse dans un endroit qui est très excentré, quoi. C'est-à-dire, elle n'aboutit pas, et on le comprend, hein, il a fallu l'installer à l'endroit où elle dérangeait le moins le commerce, puisqu'encore une fois, les sorties directes du sous-sol vers la ville était un casus belli pour Unibail, dont une partie du chiffre d'affaires repose sur la perméabilité du centre commercial aux voyageurs de la gare. Alors à ce stade, il faut peut-être évoquer le coût de l'opération, et ses bénéficiaires. On frise un investissement total qui dépasse le milliard d'euros, toutes taxes comprises, pour les travaux engagés depuis plus de 12 ans sur ce site. La canopée a coûté 238 millions d'euros, alors qu'au moment du concours, le prix plafond qui était fixé aux 10 concurrents était de 120 millions. Donc on voit un doublement du prix de la canopée. Et là, puisque nous sommes au milieu du jardin en devenir, il faut quand même souligner la disparité entre le coût supporté par la collectivité, l'argent public investi dans tout ça, et les réels bénéficiaires, qui sont encore une fois largement Unibail, qui a obtenu absolument tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire une perméabilité beaucoup plus grande entre le centre lui-même et d'une part le dessus, d'autre part le dessous. Et alors, cerise sur le gâteau, pour compenser le prix colossal de l'opération, la ville a vendu à vil prix un espace immense qui avait été construit avec de l'argent public et qui se trouve pris entre deux espaces publics, celui de la surface et celui de la gare. Ce qui veut dire qu'Unibail commande maintenant toute évolution de haut en bas ou de bas en haut, ce qui est plus important. Chaque fois qu'on voudra maintenant modifier la gare, eh bien, on traversera la propriété privée du plus gros gestionnaire immobilier commercial d'Europe.
C'était le génie des lieux, les Halles ou le palimpseste infernal. Avec Olivier Delamarre, directeur du Forum des Halles, et Françoise Fromoneau, professeure et critique d'architecture, dont vous pourrez retrouver les ouvrages à la page de notre émission. Prise de son, Élodie Royer. Mixage, Bernard Laniel. Cette émission vous était proposée par Camille Jusa et sa réalisation est signée, comme tous les épisodes du génie des lieux et on s'en réjouit, de l'indispensable Lionel Quentin. Merci à Patricia Drijard qui a assuré la logistique de cette saison 2 du Génie des lieux. Merci également à Julien Donada pour sa collaboration photographique. Toutes ces photos vous attendent sur franceculture.fr où bien sûr, vous pourrez réécouter et podcaster le Génie des lieux tout entier ou par morceaux. Quant à moi, l'été finissant, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.